j'aimerais parler sur la victoire sur l'amertume. Dans Hébreux chapitre 12, verset 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés, à ce qu'il n'y ait ni débauché ni profane comme Ésaü, qui pour un mai vendit son droit d'aînesse. Vous savez que, plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu'il l'ait sollicité avec larmes, car il ne put amener son frère à changer de sentiment. Amen. J'ai regardé le verset 15 dans une autre version qui s'appelle La Parole Vivante, transcription d'Alfred Kuhn, qui dit ceci: veillez à ce que personne ne passe à côté de la grâce de Dieu, qu'il ne surgisse pas de plantes vénéneuses d'où jaillissent des rejetons, capables d'empoisonner plusieurs d'entre vous et de contaminer toute la communauté. L'amertume. La Bible nous parle de l'amertume et de ses dégâts, et que même cette amertume peut se rencontrer dans le peuple de Dieu. La définition de l'amertume, c'est ceci: c'est un sentiment durable de tristesse, mêlé de rancœur, lié à une humiliation, une déception ou une injustice du sort. Voilà ce que c'est l'amertume. Et en lisant ce verset, il y a au moins 5 enseignements qui me sont venus à l'esprit. D'abord, la première chose qu'on remarque, c'est qu'elle peut surgir dans l'Église, puisque l'auteur aux Hébreux dit de veiller à ce qu'il n'y ait aucune racine d'amertume au milieu de vous. Donc, c'est quelque chose sur lequel il faut veiller. Ça veut dire que si nous ne veillons pas, l'amertume, elle va surgir d'un jour ou l'autre. Deuxièmement, c'est qu'elle peut contaminer plusieurs personnes, donc elle est très contagieuse, et elle va même contaminer des personnes qui sont saines, qui ne sont pas amères, qui marchent avec Dieu, mais qui vont être contaminées, souillées par cette amertume. Elle va produire des rejetons, ça veut dire qu'elle va croître, un petit peu comme un cancer va se développer, les cellules se développent, les cellules cancéreuses se multiplient, au point qu'elle va causer du trouble, du désordre au milieu du peuple de Dieu, et tout le monde va être infecté. Troisième enseignement, quand l'amertume surgit, ça nécessite de notre part une réaction. Il ne faut pas rester passif, il ne faut pas laisser l'amertume se développer, sinon on n'obéit pas à la parole de Dieu qui nous demande de la faire disparaître, de la juguler, de ne pas lui laisser le temps de s'étendre. Quatrième enseignement, c'est la responsabilité de chacun. Il est demandé à chacun de veiller. Donc, ce n'est pas la responsabilité d'une personne en particulier, mais chaque membre de l'Église doit veiller sur lui-même pour ne pas laisser l'amertume rentrer dans son cœur, ou si elle se développe, d'intervenir pour l'arrêter. Et cinquième enseignement, si l'amertume se développe, ça va produire de la stérilité. Il y a un verset dans Nombre 5, chapitre 5, verset 18, qui dit que les eaux amères apportent la malédiction. Et cette amertume va produire un fruit spirituel négatif qui est une malédiction. Maintenant, comment pouvons-nous être infectés par l'amertume ? Tout simplement en côtoyant une personne amère. Si vous côtoyez une personne amère, vous avez des chances d'être contaminé par cette amertume et de tomber vous-même dans l'amertume. C'est pourquoi il faut la rejeter. Jacques chapitre 3, verset 10 dit ceci: « De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. » Et là, on voit quelqu'un qui est amer qui va maudire. « Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. » Ça, c'est pour l'Église. « La source fait-elle jaillir par la même ouverture une eau douce et une eau amère ?» Vous voyez, l'amertume, elle sort par la bouche, elle s'exprime comme une eau qui coule. De même que la bouche peut donner des bénédictions, elle peut aussi donner de l'amertume elle peut aussi donner des malédictions. Donc veillons à nos relations et en tout cas, entretenir une relation avec une personne amère, bien ça aboutit à une influence néfaste sur notre cœur, sur notre âme, même si vous ne le voulez pas, même si vous faites attention, bien petit à petit, il y a un travail qui se fait qu'on ne voit pas venir et qui nous entraîne dans cette amertume. Alors, je vais revenir sur la définition et voir ensemble en détail comment on la retrouve dans la parole de Dieu. Le premier aspect de la définition, c'est d'abord un sentiment de tristesse. Et j'ai pensé à Anne, dont il est dit qu'elle avait le cœur, l'amertume dans l'âme, dans 1 Samuel chapitre 10, chapitre 1, verset 10. 1 Samuel 1, 10. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Pourquoi est-ce qu'elle a l'amertume dans l'âme? Parce qu'elle est mariée et elle ne peut pas avoir d'enfant, et ça a créé dans son cœur une amertume, même vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de son mari, même si son mari l'honore, même si son mari lui donne la double portion de nourriture. Mais cela ne calme pas son amertume, en plus que son mari, il avait deux femmes, donc il y avait Anne et Pénina, et Pénina poussait Anne à en vouloir à Dieu, à s'irriter contre Dieu, et du coup, Anne ne mangeait plus, elle était malheureuse, et son mari ne pouvait plus la consoler, et donc elle va répandre son cœur devant Dieu, l'amertume dans l'âme, dans le temple où il y avait Samuel. Son âme est remplie de tristesse, et en fait, là, elle déverse devant Dieu son amertume, c'est-à-dire des années et des années d'emmagasinement, de souffrance, de rejet, de sentiments d'échec, et elle va pleurer devant Dieu dans l'amertume dans l'âme. Mais finalement, c'est une bonne démarche que de déverser son amertume et de ne pas la garder dans son cœur, puisqu'elle a pleuré devant Dieu, elle n'a pas voulu sortir son amertume sur son mari ou sur l'autre épouse ou sur une autre personne, mais elle l'a déversée devant Dieu. Et je pense que c'est bien, quand on est devant le Seigneur, de pouvoir vider notre cœur, pouvoir nous décharger, de pouvoir mettre devant le Seigneur toutes nos souffrances, toutes nos difficultés, parce que lui-même, il entend et il console. Et le psaume 6, verset 9 dit ceci, « Éloignez-vous de moi, vous tous qui faites le mal, car l'Éternel entend la voix de mes larmes. » Il y a ces pleurs qui sortaient des yeux qui coulaient des yeux d'Anne. Et c'était comme une prière. Anne ne voulait pas conserver cette amertume qui la détruisait de l'intérieur. Elle s'en est déchargée par ses pleurs devant Dieu. Et elle répand son cœur. Et c'est vrai pour nous peut-être aujourd'hui, si on a cette souffrance intérieure à cause peut-être d'un enfant qui n'est pas converti, qui s'est éloigné du Seigneur, alors on peut pleurer devant le Seigneur, à cause peut-être d'un conjoint qui n'est pas converti, à cause d'un bébé qui ne vient pas, c'était le cas d'Anne, elle voulait un bébé, il n'arrivait pas, eh bien, elle a pleuré devant le Seigneur, et c'est une prière aussi de se décharger sur le Seigneur de cette amertume. Ensuite, l'amertume fait référence à la rancœur. Et dans Lévitique, chapitre 19, verset 18, c'est le deuxième aspect de la définition, c'est de la rancœur, Lévitique 19, 18, « Tu ne te vengeras point et tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. » La rancune, c'est quoi? C'est un désir de vengeance. Quand on veut régler ses comptes soi-même, c'est-à-dire faire payer à l'autre, on a souffert, eh bien on va le faire souffrir. Et la personne croit que ça va lui faire du bien parce qu'elle va faire souffrir l'autre qui l'a fait souffrir. Elle croit que ça va lui faire du bien. C'est faux. Parce que le peu de bien qu'elle va en retirer va générer une autre souffrance, une culpabilité, quelque chose qui va naître dans son cœur qu'elle n'avait pas prévu. Et la rancœur produit la mort. On le voit dans plusieurs exemples de la Bible. notamment avec Joab. Joab, c'était le général en chef de l'armée de David. Et il avait appris que le général en chef de l'armée ennemie, qui s'appelait Abner, était venu voir David alors que Joab lui-même n'était pas là. Il ne comprend pas pourquoi David a accueilli Abner. Mais David voulait faire la paix avec, avec la famille de Saül. Abner était de l'armée de Saül, il voulait faire la paix. Et Joab, qui était tellement dans la rancœur, il était dans la rancœur parce qu'en fait, Abner avait tué son frère. Et à cause de ça, il voulait se venger. Et il a donc tué Abner pour venger son frère. Mais finalement, Joab lui-même a été tué par la suite à cause de ses crimes. Et on voit que cette rancœur qui a produit la mort engendre la mort finalement. Quand vous êtes dans cette rancœur, eh bien vous communiquez la mort comme Abner. A contrario, si vous avez le pardon dans votre cœur, vous communiquez la vie. Joseph, par exemple, n'est pas tombé dans le piège de la rancœur. Il a pardonné à ses frères qui lui avaient fait du mal et ça a permis que toute sa famille soit bénie et ait de la nourriture et ait tout ce qu'il faut. Mais si Joseph avait voulu se venger et avec sa rancœur faire payer à ses frères tout le mal qu'il avait eu, il aurait pu le faire, il aurait pu même faire tuer ses frères, il ne l'a pas fait. Et son pardon a été une source de bénédiction et pour lui-même et pour toute sa famille. Paul conseille ceci aux chrétiens dans Romains 12, 19. « Ne vous vengez pas vous-même, bien-aimé, mais laissez agir la colère, car il est écrit « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. » Ne vous vengez pas vous-même. Un chrétien qui veut se venger, un chrétien qui veut régler ses comptes, ben c'est qu'il n'obéit pas à la parole de Dieu et que nous devons laisser le Seigneur agir et régler lui-même les situations. « À moi la vengeance, dit le Seigneur. » En plus, celui qui a de la rancœur, il se fatigue énormément parce qu'il a ce désir de vengeance qui le ronge de l'intérieur. Il fait des plans, ça lui demande de l'énergie, ça lui demande de la force, alors qu'il pourrait utiliser cette énergie eh bien, pour servir le Seigneur, pour faire l'œuvre de Dieu, pour faire de bonnes choses. Mais le diable vous dira toujours « Venge-toi, fais du mal, règle tes comptes. » Et tout cela vous demandera beaucoup d'énergie, mais finalement c'est une énergie mal canalisée, mal utilisée. Et le diable, lui, il pousse dans ce sens-là. Après la rancœur, un troisième aspect de la définition, c'est aussi l'amertume, c'est aussi une humiliation. Une humiliation. L'amertume peut provenir d'une humiliation publique. On devient amer parce qu'on s'est moqué de nous. On nous a ridiculisés. On nous a traités d'incapables. On nous a écartés. On nous a mis dans un coin. Et c'est difficile. Si on a été rejeté par le responsable ou par le patron devant les collègues, si on a été rabaissé par un ami, par une connaissance, par un conjoint, bien comment faire pour pardonner? Alors on a un exemple dans la parole de Dieu, c'est Jacob qui aimait Rachel plus que Léa. Et du coup, Léa a développé de l'amertume à cause de cette situation. Mais Dieu a vu l'humiliation qu'elle subissait et il lui a donné des enfants. Dans Genèse 29, verset 32, Léa devint enceinte et elle enfanta un fils à qui elle donna le nom de Ruben, car elle dit « L'Éternel a vu mon humiliation et maintenant mon mari m'aimera. » Et on se rend compte que Dieu a béni davantage Léa au niveau des enfants que Rachel. Elle a eu plus d'enfants. La Bible dit que Léa a eu 6 enfants, tandis que Rachel n'en a eu que 2. Il y a eu donc cette bénédiction parce qu'elle a été humiliée, elle a été rabaissée. Eh bien, Dieu l'a élevée. Elle a laissé, en fait, Dieu agir en sa faveur. Elle n'a pas voulu se venger ou agir contre Rachel, mais c'est Dieu qui l'a relevée. On n'aime pas être humilié, mais la Bible nous demande de nous humilier nous-mêmes, dans Jacques chapitre 4, verset 10, « Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera au temps convenable. » Vaut mieux le faire soi-même. Et 1 Pierre 5, 6, « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu et il vous élèvera au temps convenable. » Donc on voit que c'est quelque chose qui revient régulièrement, de s'humilier soi-même. Et si Dieu nous le demande, on a vraiment intérêt de le faire nous-mêmes, parce que si nous ne le faisons pas nous-mêmes, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, c'est Dieu lui-même qui va nous humilier. Dans le psaume 119, verset 67, « Avant d'avoir été humilié, je m'égarais. Maintenant, j'observe ta parole. » Donc, il a été humilié parce qu'il était orgueilleux, parce qu'il voulait s'en sortir par lui-même, parce qu'il s'est entêté dans peut-être des décisions qui n'étaient pas les bonnes. Mais il a été humilié. Et comme il ne s'est pas humilié lui-même, ben Dieu l'a humilié. Mais il est préférable de s'humilier soi-même plutôt que d'être humilié par Dieu. Parce que quand vous vous humiliez vous-même, c'est vous qui prenez l'initiative et vous savez comment vous allez faire. Tandis que quand Dieu va vous humilier, vous ne savez pas comment il va procéder. Et l'humiliation que Dieu procure, eh bien, va générer certaines souffrances. Psaume 107, verset 11, « Il humilia leur cœur par la souffrance. » Ça, c'est le peuple de Dieu qui était rebelle. La Bible dit que c'était un peuple au cou raide, c'est-à-dire orgueilleux. Alors, il les a humiliés par la souffrance, ils succombèrent et personne ne les secourut. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Parce qu'ils se sont humiliés, parce qu'ils se sont repentis, alors ils ont crié à l'Éternel et ils ont pris les bonnes décisions à ce moment-là. Mais ils auraient pu éviter d'être humiliés par Dieu s'ils avaient observé les versets précédents, « Humiliez-vous vous-même devant Dieu. » N'attendons pas que Dieu nous humilie lui-même. En tout cas, nous devons reconnaître que si nous sommes humiliés, c'est pour notre bien. Psaume 119, verset 71, « Il m'est bon d'être humilié, afin que j'apprenne tes statuts. » Même quand Dieu nous rabaisse, nous ramène à un niveau plus bas, eh bien c'est dans un but d'une meilleure compréhension de sa parole, d'une meilleure communion avec lui. Nous devons comprendre que cela est nécessaire pour nous. C'est pourquoi faisons-le nous-mêmes, mais si Dieu le fait, eh bien c'est bon pour nous. Quatrième élément de la définition de cette amertume, c'est lié à une déception. Déception, Job chapitre 7, verset 3, « Ainsi, j'ai pour partage des mois de douleur, j'ai pour mon lot des nuits de souffrance. » La douleur, la souffrance, la déception. Une autre version dit « J'ai reçu en partage des mois de déception. » La déception, vous avez remarqué, ça fait toujours partie de la vie sur Terre. On aura toujours des déceptions. On sera toujours déçu de quelqu'un, de quelque chose qui ne va pas, qui ne marche pas comme on souhaite. Et c'est vraiment l'occasion de devenir amer quand on est déçu. Même le pire de tout, c'est quand on est déçu de Dieu. Parce que Dieu n'a pas répondu, Dieu n'a pas agi comme on pensait. Et le diable va toujours vous encourager à devenir amer vis-à-vis de Dieu pour vous dire, ah, tu vois, tu as prié, puis Dieu ne t'a pas répondu. Puis vous allez ruminer cela pour montrer, tu vois, Dieu ne t'a pas guéri, Dieu n'a pas agi, il n'est pas intervenu pour ton enfant. Mais en fait, en réalité, ce n'est pas que Dieu n'est pas intervenu, mais c'est que Dieu ne répond pas toujours quand nous pensons et comme nous voulons. Et nous pensons qu'il n'a pas répondu. C'est un peu un raccourci. Mais en réalité, Dieu a ses réponses. Et si sa réponse est « attends », sa réponse est peut-être « non », sa réponse est une autre chose qu'on n'a pas prévue, c'est aussi une réponse. Ce n'est pas la réponse que nous aurions aimé entendre, mais c'est quand même une réponse de Dieu. Et même quand il ne répond pas, c'est une forme de réponse. C'est-à-dire, il fait silence. Et nous devons persévérer dans les silences de Dieu, sachant qu'il contrôle tout. Les déceptions sont encore plus fortes quand on est dans l'Église. Parce que on a toujours une très haute attente dans l'Église. On se dit, oh là là, c'est des chrétiens, donc ils doivent être vraiment parfaits. Alors, s'il y a une faille dans l'Église, un chrétien, par exemple, qui a promis quelque chose et qui ne l'a pas fait, alors ça va générer une déception tellement grande parce que c'est un chrétien. C'est un chrétien, il doit donner un témoignage exemplaire. Et c'est vrai que les chrétiens doivent donner un bon témoignage, mais ils ont aussi des failles et ils ont aussi des manquements. Et l'Église est composée de chrétiens qui ne sont pas parfaits, qui ne sont pas absolument parfaits, pas sans péché. Ils doivent progresser, aller de mieux en mieux, mais il n'y a aucune Église parfaite. À partir du moment où il y a des êtres humains dans l'Église, forcément, il y a des imperfections, et on en fait partie. Et j'ai regardé vraiment les églises du Nouveau Testament. Nous, on idéalise beaucoup les églises du Nouveau Testament, mais quand vous lisez l'Épître aux Corinthiens, il y avait des chrétiens, ce n'était pas facile, et qui vivaient des situations qui n'étaient pas glorieuses. Elle était loin d'être parfaite, cette église. Parfois, il y avait des grands manquements. Et pourtant, on voit que Paul les encourage, Paul les exhorte. Et bien sûr, il les encourage à aller plus proche du Seigneur, à progresser dans la sanctification, à s'attacher davantage à lui. Mais on voit que il y avait des chrétiens qui avaient des grosses failles et qu'il fallait qu'ils changent, qu'ils progressent. Eh bien, encore aujourd'hui, dans l'Église, il y a encore des chrétiens qui doivent grandir et qui doivent progresser. C'est pourquoi il ne faut pas devenir amer à cause de ça. Et d'ailleurs, on ne voit pas Paul tomber dans l'amertume et se dire « c'est plus la peine de prier pour ces chrétiens-là, ils n'écoutent pas les conseils, ils sont têtus, ils font que ce qu'ils veulent, ils ne les critiquent pas, ils ne les jugent pas, mais il fait tout en sorte pour les faire progresser afin qu'ils s'approchent davantage de Dieu. » Alors vous croiserez toujours à un moment donné des chrétiens qui sont déçus. Ils sont amers parce que Dieu n'a pas répondu, parce que Dieu n'a pas agi comme ils pensaient. C'est leur choix, c'est leur décision. Et c'est le piège de s'entretenir l'esprit que Dieu ne bénit pas, que Dieu n'agit pas, que Dieu faisait hier des miracles, aujourd'hui il n'en fait plus. Et ça, c'est un état d'esprit contre lequel nous devons lutter. Et en les côtoyant, ça génère de l'amertume. Parce qu'ils sont déçus et ils mettent sur vous leur déception. Et ils vous partagent leur déception. Et là, il ne faut pas tomber dans le piège de l'amertume. Il faut les encourager, les exhorter à rentrer en communion avec Dieu, à se décharger de cette amertume sur le Seigneur, à être libéré de cette amertume pour avoir un esprit d'adorateur, un esprit de louange, de reconnaissance, de foi. Mais s'ils ne veulent vraiment pas changer, bien à un moment donné, vous priez le Seigneur qu'il leur fasse grâce, mais vous ne pourrez plus être en communion avec quelqu'un qui est dans l'amertume, parce que sinon vous perdrez vous-même votre paix et vous serez chargé de cette amertume dans votre esprit. Donc que Dieu les éclaire, mais je dirais qu'un chrétien qui s'entête dans cette voie est en danger de s'égarer loin du Seigneur. Et nous devons prier pour qu'il soit libéré de cette amertume afin d'avoir la paix et la joie dans son cœur. Et ça, il faut qu'on veille sur notre cœur. Et dans l'Église, vous savez, on trouve toujours ce qu'on y apporte. Si vous amenez de la joie, vous allez trouver de la joie. Si vous amenez de la paix, vous allez trouver de la paix. Si vous amenez de la compassion, vous allez trouver de la compassion. Mais si vous amenez de l'amertume, vous allez y trouver de l'amertume. Parce que, en fait, vous trouvez toujours ce que vous apportez. Et puis, le cinquième élément de la définition, c'est lié à un sentiment d'injustice. Donc, 1 Corinthiens chapitre 6, verset 7. C'est déjà certes un défaut chez vous que d'avoir des procès les uns avec les autres. Vous voyez, je vous parlais des Corinthiens, c'est eux, les Corinthiens. Ils faisaient des procès entre chrétiens. Pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt quelque injustice? Pourquoi ne vous laissez-vous pas plutôt dépouiller? L'injustice. Personne n'aime souffrir de l'injustice. On aime tous recevoir exactement ce qui nous est dû et que la justice soit faite. Alors, comment vivons-nous l'injustice? En général, on vit assez mal cette injustice parce qu'on n'aime pas ça. Et on se dit, mais pourquoi le Seigneur a permis que je sois maltraité, que je sois malmené? C'est une injustice. Et puis, la tentation, c'est de se comparer aux autres. L'autre, elle est plus bénie que moi. C'est injuste. L'injustice. Alors, Pierre dit ceci, et c'est un véritable enseignement pour nous. 1 Pierre 2,19. Car c'est une grâce de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu quand on souffre injustement. Vous voyez, ce problème de l'injustice, il existe déjà à l'époque de l'apôtre Pierre. Beaucoup de chrétiens souffraient injustement. Que dit Pierre ? En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter les mauvais traitements pour avoir commis des fautes ? En quelque sorte, c'est normal. On a fait du mal, eh bien, on est jugé, on est condamné. Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Ce n'est pas si facile à vivre, ce verset. Il est facile à lire, mais il n'est pas facile à vivre. Surtout quand on supporte les souffrances lorsqu'on fait ce qui est bien. Parce qu'il y a tout en nous. Lorsqu'on fait ce qui est bien, on s'attend à recevoir du bien. Mais si on reçoit du mal, on va mal le vivre et on va être vraiment déçu et on va se tourner vers Dieu et on va proclamer que c'est une injustice. Et pourtant, le texte dit, c'est une grâce devant Dieu. C'est une grâce devant Dieu. Et même, c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour nous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Vous avez été appelés. Avec l'appel de Christ, il y a un appel à la souffrance et à l'injustice. Nous vivons l'injustice. Ça fait partie de la vie chrétienne. Alors, Dieu nous donnera la force de supporter l'injustice si nous sommes dans la prière, dans la parole, dans la foi, même si tout le monde ne vous aimera pas, même si vous aimez tout le monde, il y a des gens qui ne vous aimeront pas, mais c'est l'injustice, c'est lié au fait que vous êtes chrétien, parce que vous aimez Dieu, mais il y a des gens qui ne supportent pas ça et qui vont vous rejeter. Eh bien, priez pour que le Seigneur vous donne la force de traverser l'injustice en comptant sur son secours, en vous rappelant que vous êtes aimé de Dieu, et même nous rappeler que Dieu utilise les injustices pour nous conduire là où il veut. Vous le voyez avec Joseph, qui a été injustement maltraité par ses frères, poussé vers l'Égypte avec cette caravane de Madianites. C'est une injustice. Il est victime d'une injustice. Ben, Dieu a utilisé cette injustice pour le placer auprès de Pharaon. Évidemment que Joseph ne serait jamais allé de lui-même en Égypte. Mais Dieu a permis que cette injustice se transforme en bénédiction dans la vie de Joseph. Et c'est pour nous une source de consolation que de se dire que Dieu va transformer les injustices que nous traversons en bénédiction pour notre vie. Il faut l'avoir dans l'esprit et cela va nous aider. En conclusion, l'amertume, on le voit, ça existe. L'amertume, c'est aussi un choix dans lequel on peut tomber. C'est un piège dans lequel il nous faut veiller de ne pas sombrer parce que c'est facile de devenir amer. C'est naturel d'en vouloir à Dieu, d'en vouloir à l'un, d'en vouloir à l'autre, de vouloir régler ses comptes. Mais on peut aussi réagir différemment, faire un autre choix, aimer notre frère, notre sœur, aimer notre prochain, faire du bien autour de nous, encourager ceux qui sont les plus faibles, ne pas avoir peut-être une trop haute attente des autres en disant « c'est un chrétien, donc je m'attends à beaucoup, beaucoup, beaucoup ». Effectivement, vous serez déçus au bout d'un moment parce qu'il n'est qu'un être humain. Pardonner à ceux qui ont fait du tort, supporter l'injustice en comptant sur la grâce de Dieu. Voilà les conseils de la parole de Dieu. Et la solution divine, elle est là, ce qui nous permet de sortir de l'amertume, en tout cas la déverser devant le Seigneur et non pas sur l'un ou sur l'autre, et vider notre cœur devant le Seigneur pour laisser le Seigneur nous remplir de son amour. Et si nous recevons son amour, nous allons pouvoir aimer les autres. Que le Seigneur nous accorde sa grâce. On va prier. Merci encore pour ta parole, merci pour ton secours qui vient d'en haut, parce que tu es ce Dieu d'amour qui tend encore ta main, qui guérit les cœurs blessés, les cœurs brisés, victimes d'injustice, victime de rejet, victime de souffrances les plus diverses, Seigneur, nous ne voulons pas tomber dans le piège de l'amertume qui va générer du trouble même jusque dans l'Église, qui va même infecter d'autres personnes croyantes au milieu de nous. Et nous voulons veiller les uns sur les autres pour nous encourager et nous exhorter à l'amour, à la foi, à la compassion, au zèle pour les choses de Dieu. Seigneur, veuille renouveler nos cœurs et nous voulons prendre modèle sur Anne qui a pu déverser son amertume devant toi et ne pas la décharger sur quelqu'un d'autre, mais laisser son cœur être fortifié et renouvelé dans ta présence, être libéré de ce poids, de ce fardeau qu'elle avait en elle. Seigneur, toi seul peux réparer un cœur qui est brisé et nous te prions de le faire, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen.